Les marchandes de sable, juste après Dresseuse d'ours, les histoires brutes et non romancées d'une jeune médecin généraliste, de Jadot. Juste après Dresseuse d'ours. Juste avant d'être médecin, je voulais être dresseuse d'ours. Autant dire que ça remonte. Quand même bizarre que je me souvienne aussi précisément du jour où j'ai décidé de ma carrière. J'avais quelque chose entre 6 et 8 ans et j'ai eu la révélation un matin dans la salle de bain. Réveil difficile. Complètement ébloui par la lumière, je me rends compte qu'en fermant un œil, un seul œil, je ne suis plus ébloui. Et c'est le cas de le dire, c'est l'illumination. Ce n'est donc pas mon œil lui-même en tant qu'organe qui est ébloui. C'est, quelque part derrière, la somme de mes deux yeux. Je ne suis pas ébloui dans mon œil, je suis ébloui dans la somme de mes yeux. Mes yeux s'additionnent, se croisent quelque part, derrière eux, dans ma tête, et c'est cet endroit-là qui est ébloui. Mes yeux se croisent quelque part dans ma tête. À 7 ans, se rendre compte un matin qu'on a les yeux qui se croisent dans la tête, ça fait un choc. Il fallait tirer ça au clair. Il fallait être neurochirurgien. Au diable ma pourtant prometteuse carrière de dresseuse d'ours. Ensuite, j'ai appris qu'on pouvait apprendre comment ça marche dans la tête sans faire de chirurgie et j'ai décidé d'être neurologue. Ensuite, j'ai appris qu'on ne savait pas vraiment au juste comment ça marche dans la tête et j'ai décidé d'être médecin. Ensuite, bien plus tard, après quelques déconvenues hospitalières, j'ai eu la chance de rencontrer deux médecins généralistes qui faisaient de la vraie médecine et qui brillaient d'une vraie flamme. Et, nouvelle illumination, j'ai décidé d'être généraliste. Pour le moment, je ne regrette rien. C'est beau une gare de la nuit. Mot de patient. Là, continuellement depuis avant que je vienne voir le docteur, j'ai mal au bras droit. Il m'a donné une boîte carrée. Ah, les nuits de garde aux urgences. Horloge, salle d'attente, patient, sonnerie du bip, téléphone, radio, stéthoscope, horloge, scalpel, patient, kit de suture, patient, horloge encore. Du grave, du sordide, du pas grave, du touchant, du toucher, du drôle. Les anxieux, les trop, les pas assez, les mères angoissées, les fils effondrés, les gentils hystériques, les agressifs. Ils sont tous différents. Ils se ressemblent tous. Et, sur le coup de 3 heures du matin, quand on entame sa 17e heure de boulot d'affilée, quand la patience et l'indulgence dont on s'est si souvent gargarisé ont une fâcheuse tendance à s'effilocher doucement, on essaie malgré tout de garder certaines phrases au fond de sa gorge, en priant très fort pour qu'une nuit, elle ne nous échappe pas. À celui qui est venu réclamer sa radio de genou, là, ce soir, à 22h30, pour une douleur qu'il traîne depuis 2 semaines et pour laquelle il a, au fond de sa poche, une ordonnance de son médecin traitant pour une radio en ville le lendemain après-midi, quand il vous toise de tous ses centimètres et qu'il dit « Mais demain, je travaille, moi, madame !»« Ah, moi, demain, je vais courir nu dans un champ de luzerne, connard !» Au type avec sa croix gammée sur l'épaule, dont vous essayez tant bien que mal de recoudre l'arcade, pendant qu'il vous vomit consciencieusement dessus, avant de se mettre à hurler que vous avez intérêt à le lâcher tout de suite, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il va se laisser emmerder, et qu'on est en démocratie et qu'il peut encore choisir qui va le soigner, et que ce sera certainement pas une gonzesse de ces deux. Ah, bah vous voyez bien qu'on va finir par s'entendre, monsieur, figurez-vous que moi, je ne soigne pas les gros cons. À la gentille vieille dame qui ne sait rien de ses antécédents parce que c'est sa fille qui s'occupe d'elle, mais qui est sûre de prendre tous les matins... Le cachet, là, docteur, tout blanc, avec une boîte blanche et verte. Ah oui, je vois, c'est le cachet pour le truc, là, avec les symptômes. À celle qui arrive pour une boule sous le bras, qu'elle a depuis un mois et demi, quand on lui demande pourquoi elle se décide à consulter, précisément cette nuit, à 2h30 du matin, et qu'elle vous répond « J'ai une amie cet après-midi qui m'a dit que ça pouvait être un cancer. » Alors forcément, vous comprenez, je m'inquiète, et je n'arrive pas à dormir. Vous pouvez bien me faire une écho vite fait, non ? Dites d'ailleurs, je suis là depuis plus d'une demi-heure, ça va prendre encore longtemps ? Un petit moment, oui, surtout en comptant le scan pour votre cancer du cerveau. À tous ceux qui sont scandalisés d'avoir dû patienter une heure, ou deux, ou trois dans la salle d'attente, quand ils s'exclament « Mais c'est un service d'urgence quand même !» Oui, mais ça ne veut pas dire urgence dans ce sens-là, choupiné d'amour, alors juste ta gueule maintenant. À tous ceux qui vous répondent « Oh, un moment !» quand on leur demande depuis combien de temps ça dure. Ok, j'ai mon diagnostic, il est presque certain que vous avez une maladie. À celui qui refusait catégoriquement de passer un scanner parce qu'il voulait une IRM et qui avait fini par me dire « Mais enfin, madame, le client est roi !» Les mots me manquent. Petite lâcheté quotidienne. Mot de patient. Ma mère oubliait tout. Vous savez, elle avait la maladie d'Eisenhower. Il est jeune, 60 ou 65 ans, je ne sais plus au juste de qui l'amène. Un AVC probablement, ou un cousin sympathique. Sa chambre est en plein milieu du couloir, le couloir porte, où on entasse pour quelques jours les gens qui arrivent aux urgences trop mal en point pour repartir chez eux, pas assez mal en point pour être acceptés en réanimation, des cas pas assez simples pour être acceptés rapidement dans un service d'hospitalisation traditionnel. On a de la place seulement pour 8 échoués dans le couloir porte. Si on commence sa garde avec le porte plein, on sait d'avance qu'on ne pourra rien faire de la vieille dame qui va arriver à bout de souffle cette nuit, qu'elle va nous coûter 4 heures de coup de fil dans tous les hôpitaux de la région. On sait que ça part mal. Bref, il a échoué là, lui, le vénard. Il hurle, il s'agite, il frappe, il est attaché. Il hurle, il ne s'arrête jamais de hurler. J'ai un peu envie de hurler aussi. Il hurle deux choses seulement, toujours les mêmes, inlassables. La première, c'est en écho, la dernière phrase qu'il a entendue. Il part en crescendo et de plus en plus aigu, en boucle. Il faut rester calme, il faut rester calme. Ou encore, allongez-vous, allongez-vous. On pourrait vraiment s'amuser en fait avec lui. Rentrer dans sa chambre, dire caca prout et guetter la tête des infirmières quand il se mettra à le hurler à son tour. La deuxième, c'est sa seule phrase à lui. Je suppose qu'il la garde pour quand il a oublié ce qu'il était en train de hurler. Sa phrase à lui, c'est « La tête, elle est vide ! La tête, elle est vide !» Son visage se déforme, il a les yeux beaucoup trop grands ouverts, beaucoup trop fixés sur moi. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est vide, ta tête. Ça fait 4 jours qu'elle est vide, alors qu'elle était parfaitement pleine avant qu'un petit bout de sang vienne se décider à boucher une artère de ton cerveau pour voir si ce serait rigolo. Ta tête est vide et ça te terrorise. Et ça me terrorise aussi. Qu'est-ce qui s'y passe dans ta tête, juste assez pleine pour savoir qu'elle est vide? Et surtout, surtout, qu'est-ce que je peux te dire, moi? Je dois te tapoter la main en disant « Menons, menons, mon brave, elle n'est pas vide, votre tête. Allons, allons, ha, ha, ha. » Je dois te dire « Chut, chut, ça va, tout va bien, calmez-vous. » Je dois te dire « Eh oui, bonhomme, oulala, sacré néant dans ta boîte crânienne, hein, c'est pas de bol. » Qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne peux pas le rassurer. La vérité, c'est que sa tête est vide et que très probablement ça ne s'arrangera pas. Et qu'il frappe et qu'il crache sur sa femme qui vient essayer de lui rendre visite tous les jours. Et qu'il va finir par ne plus venir, ou une fois par semaine, le dimanche, parce qu'il faut bien être une bonne épouse. La vérité, c'est qu'on finira au mieux par lui trouver une place dans un long séjour quelconque avec des infirmières qui soupireront en entrant dans sa chambre et qui iront voir le médecin pour demander si on ne peut pas quand même lui monter un peu son hall-doll parce qu'il épuise toutes les équipes. Qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai pensé à lui parler longtemps, de n'importe quoi pour remplir un peu sa tête, comme on berce un nouveau-né. Lui parler de la pluie et du beau temps, lui dire que sa femme a téléphoné et qu'elle l'embrasse, que maintenant il est 11h30 et que le repas sera bientôt servi, mais que le menu est pas terrible aujourd'hui. Ça paraît la seule chose à peu près envisageable, mais bêtement, je n'ai pas le temps, pas le courage non plus. Les urgences tournent, les gens arrivent, le bip bip, et je ne peux pas passer 10 minutes à essayer de te raconter n'importe quoi, en sachant pertinemment que de toute façon, au mieux, j'arriverai peut-être, peut-être à t'apaiser pendant 34 secondes que tu auras oublié tout de suite après. Alors je fais comme tout le monde. Au début, 2-3 fois, j'essaie de rentrer dans ta chambre et je dis une phrase creuse et idiote pour te calmer. De plus en plus courte, de plus en plus idiote, en me sentant vaguement ridicule d'essayer de changer la face du monde avec ma phrase à la con. Et pleinement ridicule quand c'est ma phrase à la con que tu te mets à hurler ensuite à la face du monde. Après, je ne rentre plus. Je suis passée à côté de ta chambre en regardant fixement mes pieds, en prenant l'air pressé, genre « c'est pas tout, mais j'ai des vies à sauver ». Et quand l'infirmière me demande de prescrire un Loxapac, parce que c'est plus possible et qu'on peut pas travailler dans des conditions pareilles, je signe et j'ai hâte que ça marche et que ça t'abrutisse. J'aimerais savoir comment ne pas avoir honte de cette prescription que je fais pour moi, parce que pour toi, je ne fais rien. Tu la sens, ma grosse B. Trois petits points. Extrait de courrier. Mais heureusement, le bilan d'extension retrouve de nombreuses localisations secondaires. Externa, garde aux urgences. Mon boulot consiste grosso modo à aller voir les gens en première ligne, leur demander ce qu'ils fichent là et depuis combien de temps ils ont ça. Oh, un moment donc. Puis à trotter derrière de vrais médecins en blouse blanche qui viennent poser des diagnostics et demander des examens. Une femme d'une soixantaine d'années, douleur abdos, antécédent d'un cancer quelconque il y a quelques années, du genre méchant et jamais tout à fait guéri. Elle s'est mise à avoir mal depuis plusieurs jours, puis de plus en plus. Elle a essayé d'éviter l'hôpital tant qu'elle a pu, mais ça commence à faire vraiment trop mal. J'ai le souvenir qu'elle se tord sur son lit et que sa peau tire vaguement sur le gris-jaune, mais c'est peut-être moi qui enjolive après toutes ces années. Comme elle va vraiment moyen, un vrai médecin m'accompagne d'emblée pour aller la voir, histoire de ne pas perdre trop de temps. Et pas n'importe quel médecin, s'il vous plaît, le chirurgien, histoire de perdre encore moins de temps. Prononcez chirurgien. L'interne en chirurgie, en fait, mais c'est tout comme. Bonjour madame, je suis le chirurgien. Histoire de la maladie, où ça fait mal, depuis quand elle n'est plus allée aux toilettes, depuis quand elle a maigri, hochement de tête. Il pose ses deux mains l'une sur l'autre sur son ventre, il fait onduler ses doigts de façon super professionnelle. Il y va avec méthode, cadran par cadran, les yeux levés vers le plafond comme pour y chercher de l'inspiration. Soudain, son visage s'illumine. Il hésite, il vérifie, il finit par rester toujours au même endroit et on voit bien qu'il se passe quelque chose là, sous ses mains. Et ça a l'air de lui faire vachement plaisir. Il sourit même maintenant. Triomphant, il me dit « Tenez, sentez, là, palpez. » Je pose mes mains moi aussi. Parce qu'il me l'a demandé, bêtement. Parce que je ne réfléchis pas, parce que c'est tellement surréaliste que je flotte. Far, far away, quelque part entre l'hébétude et l'incrédulité. Parce que je ne veux pas croire qu'il va se passer ce que je crois qu'il va se passer et qui, évidemment, se passe. Alors, sourire, qu'est-ce que vous sentez ? Effroyable. Effroyable connard. Tu veux dire à part l'envie de disparaître ? Tu veux dire autre chose que le désir irrépressible de te hurler ta méchanceté crasse au visage ? Tu me demandes, braclure de moisissure de chiottes à la turque, si je sens autre chose que mes poings qui fourmillent et que j'essaie d'empêcher d'atteindre ton joli sourire aux dents blanches. Je la sens, ta tumeur, enfoirée d'enfant de putain, sous la peau du ventre auquel est rattachée, un peu plus haut. Si, si, regarde bien, un torse et oh, un cou et une tête d'une dame avec des oreilles. J'ai dit rien, parce que c'est à peu près la seule chose que j'ai pensé à dire sur le moment. Et en sortant de la chambre, étouffée à moitié par mon respect idiot de la hiérarchie, à moitié par ma fierté et à moitié par ma lâcheté, ce qui fait beaucoup trop de moitié, j'ai dit « Non, mais j'avais senti, hein. Mais bon, voilà ».